Besançon, Bertrand Bichot, Alexandre Lumière.
On dit de notre invité qu'il est doux, mais intransigeant. On le dit aussi idéaliste, énigmatique et hédoniste. En le regardant, il apparaît à la fois chic et sobre. Malgré son statut de véritable icône, il semble être resté le même jeune homme que nous avions découvert il y a une trentaine d'années, avec une retenue ténue à l'image de la sienne de tenue toujours d'une impeccable élégance. Décréter ce que sa discrétion est une volonté de ne rien montrer, de cultiver le secret, serait malvenu car un malentendu, car oui, pour qui sait écouter avec attention ses chansons, on devine une intention de se raconter, de se dévoiler. C'est un homme à la démarche paisible, à l'intuition qui flamboie, ses fans adorent l'adorer. Vous l'avez peut-être déjà vu quelque part, rafraîchissez-vous donc la mémoire, extasié devant une toile de Vitsen, à Rome, Londres ou Rennes, cherchant le magicien et sa dose. Gainsbourg le considérait comme un ovni, quoi de plus normal pour cet adepte des vies martiennes qui chante « Pourquoi vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles ?» Mythomane à ses débuts, sa musique faite de note, la note, fut une invitation à découvrir sa pop satori, à Paris ou ailleurs, se dévouant corps et âme à ses chansons en constante réévolution, tombé pour la France, puis atteignant l'Éden grâce à sa résurrection pour finalement retourner à son innocence retrouvée.
Pour un oui, oui, oui. Pour un son, son, son.
Bonjour à tous, bienvenue dans Pour un oui, pour un son, avec aujourd'hui Étienne Dao. Bonjour Étienne Dao.
Bonjour, faut que je sois à la hauteur après tout ça. C'est... Mon Dieu.
C'est votre... un peu de votre carrière.
Merci.
Que nous avons traversé avec ces quelques titres d'albums.
C'est très beau.
Référence.
Merci.
Merci.
Très touché.
À vous. Merci de nous recevoir dans votre maison 3 petits points de disque.
Ex.
Ex.
Oui.
Vous retournez voir vos ex, vous.
Je reste toujours en bon terme avec mes ex, oui.
Mais vous en sentez encore un peu à la maison ou ça a toujours été les labels quelque chose de...
C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai tout mon catalogue en fait, depuis les débuts ici, on travaille souvent sur des rééditions, sur des versions de luxe, des albums. Donc là, en ce moment, je suis en train de préparer un projet pour la fin de l'année avec, mon ex. c'est pour ça que nous sommes dans les murs, dans
l'actuel, les ex-murs. L'actuel n'est pas jalouse.
Je sais pas.
Ah.
Un peu tendu quand même.
C'est normal. On vous a vu aux Hurricanes de Belfort il y a quelques jours en France au Festival Beauregard. Vous serez au 40e Palais au Festival Nyon le dimanche 26 juillet à 22h. Vous avez un été très studieux en perspective.
Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas trop fan des festivals pendant des années. Ou alors, un temps en temps comme ça, parce que j'aime pas jouer dehors. À chaque fois, il y a des intempéries. Je me suis pris des orages sur la tronche. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai joué à Nyon, il y avait un orage fabuleux, très très beau.
Et ça peut être beau. Donc.
Il y avait comme un espèce de light show qui coïncidait avec les textes. Je disais orage, d'un coup il y avait un éclair qui zébrait le ciel. Je me disais vraiment pas mal du tout. Et non, c'est souvent il y a des intempéries, on est obligé d'annuler. Enfin, là, par exemple, aux Hurricanes, il faisait 40 degrés, c'était quand même assez éprouvant pour chanter. Donc il y a des trucs comme ça, et puis en fait je m'y suis fait à cet exercice des festivals, qui n'est pas un exercice évident au départ, et c'est une autre énergie. Finalement je crois que je suis en train d'adorer ça, bizarrement.
Et le public est différent aussi ?
Le public est assez différent, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là pour vous, pas forcément pour vous.
Il y a
des gens qui sont là pour vous, mais comme il y a beaucoup d'artistes, ça permet de jouer devant les gens qui ne viendraient pas vous voir d'habitude. Et puis, là aussi, c'est produit quelque chose, c'est que vraiment, il y a beaucoup de gens beaucoup plus jeunes, en fait. À Beauregard, qui était plus mon public qu'aux The Rock, il y avait vraiment des gens très très jeunes, enfin, je veux dire, de 17-25, qui chantaient tout par cœur, donc ça a été c'était une belle surprise.
Donc plusieurs générations vous suivent maintenant
Bah du coup, oui, je m'en suis rendu compte.
C'est la transmission, c'est les parents, vous pensez, qui font écouter les disques?
Je sais pas.
C'est les plus jeunes qui, sur Internet maintenant, ont accès à tout?
Il y a eu un moment où je crois que certaines de mes chansons, de mes disques, ont été citées par des gens de la nouvelle génération comme étant quelque chose qui les avait inspirés ou avec lesquels ils avaient des affinités. Ça tombe bien parce que moi aussi je les aime bien, ces artistes, et je trouve que j'ai des affinités avec eux. Et je pense que ça a été une petite ouverture comme ça vers des gens plus jeunes.
Tout de suite, l'une de vos chansons, Étienne Daho, Le Grand Sommeil par Ginger Ale. Je vous propose de vous faire écouter des sons, on le fera au cours de l'émission, c'est le principe de Point Oui pour un son, avec quelques musiques parmi celles qui ont bercé votre enfance, Étienne Daho.
La fièvre s'est emparée de l'Algérie. Depuis 2 ans, les attentats ne cessent à un endroit que pour reprendre à un autre, alimentés par les propagandes mensongères et les méthodes de terreur. Les ruptures de communication ne se comptent pas plus que les photos arrachées et les sabotages de voies ferrées.
Près de chez moi l'autre soir, je me trouvais par hasard devant le jukebox.
Devant les jukebox.
quand j'entendis tout à coup une chanson que j'aimais beaucoup.
Moi je suis collectionneur de 78 tours, hein, de blues. Écoutez un 78 tours de blues, de rock'n'roll ou de jazz, hein, Billie Holiday ou dans un jukebox comme ça, à lampe, c'est quand même un kiff quoi.
Oui, tout le long du chemin, tout le long, donne-moi la main, je t'aime, je ne pense qu'à toi.
Je m'en vais avant toi, dis-toi, bien que je serai là, j'épouserai la pluie, le vent, le soleil et les éléments pour te caresser tout le
the Academy Française then, and I don't think I do now. J'étais ici 1959 et je n'avais rien de spécial à dire en ce temps.
William S. Burroughs n'aime pas parler de sa vie ni de son œuvre. Et en général, il parle peu.
Enfin, c'est toute ma vie. Enfin, je trouve que c'est bien mieux que de parler. En fait, c'est dommage pour vous. En fait.
Non, c'est le principe de l'émission.
Non, mais là, tout est dit. En fait, tout est dit. Pour moi, c'est vraiment de zéro à 17, 18. Il y a tout. Il y a tous les artistes qui ont été importants pour moi, qui m'ont aidé à me construire. Alors, si ma mémoire est bonne, il y a les Beach Boys.
Bien sûr.
Bien sûr. Mmh. Mon père avait cet album qui s'appelle Surfing Safari que j'écoutais vraiment tout le temps, toute la journée. C'est un album que j'adorais. J'ai toujours adoré les Beach Boys. Même en 77, quand je disais que j'adorais les Beach Boys, à l'époque, c'était vraiment pas du tout. C'était pas du tout in comme maintenant.
Tout le monde gentil.
Tout le monde vomissait. Donc ouais. Dès que je disais Beach Boys, j'ai reconnu aussi Hugo Frey.
Oui, alors
tout
il y
le long
du
chemin.
Ça. C'est votre premier disque, si on peut dire.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais scout. Et donc, quand on était scout, toutes les chansons qu'on chantait à la guitare, et ça, c'était les chansons de Dylan, chantées en français par Hugo Frey, à la guitare. Et donc, il y avait cette chanson-là que j'aimais beaucoup, tout le long du chemin, et que j'avais enregistrée pour je crois que c'était pour la fête des mères, pour faire un cadeau à ma mère. Et à l'époque, à la locomotive, Place Blanche, il y avait un espèce de machine photomaton et dans lesquelles on pouvait avoir un disque. Donc on chantait, on avait un disque, et donc j'avais chanté ça, et c'était mon premier disque. Et c'est la même, j'ai la même voix en fait, c'est très très étrange.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 7 ans, je pense.
Vous aviez la même voix à 7 ans ? Vous aviez une voix d'homme alors, parce que vous
n'avez pas même, enfin, je veux dire, même d'intonation, ouais. Enfin, pareil, ouais.
Même mélodie,
c'est drôle, hein,
ouais. Même musicalité.
Ouais.
On a entendu les Pink Floyd, un peu.
Pink Floyd, c'était le premier album que j'ai acheté, et mon amour immodéré pour Syd Barrett, ça m'a énormément influencé en fait. Velvet aussi, ouais. Bien sûr. Je crois que tout était joué sur ces deux groupes pour moi. Et j'aimais tellement ça. Aussi, peut-être aussi un peu les Stooges. Les deux premiers albums des Stooges. Et j'aimais tellement cette musique. Elle était tellement dans toutes mes cellules que c'était impossible pour moi de faire du rock quand j'ai commencé. Alors que j'étais entouré de groupes qui. Tous mes petits camarades voilà, étaient vraiment dans le rock. Moi, je m'étais dit. Voilà, je ne veux pas chanter en anglais, je ne veux pas faire partie d'un groupe et je ne ferai surtout jamais de rock. Parce que d'abord j'avais envie d'inventer quelque chose, d'essayer de trouver autre chose avec mes autres influences. On a écouté Françoise Hardy tout à l'heure, Gainsbourg, mais j'aimais beaucoup aussi Brigitte Fontaine, et puis j'ai quelques casseroles yéyé aussi. Parce que, je sais pas, j'aimais tous les tubes, France Gall, ça, tous les trucs qui passaient dans le jukebox dont on a parlé justement. Ouais. Et je trouvais que c'était. J'adore les tubes. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais l'oreille collée à la radio et j'avais un cahier où je notais quand il y avait un artiste que j'aimais bien qui gagnait des places. Et ça. Bon, comme on n'avait pas d'argent, je pouvais pas appeler parce qu'il fallait appeler pour faire monter ses chanteurs préférés et tout ça. Mais j'étais jeune, hein, j'avais moins de 10 ans. Mais j'adorais la radio et j'adorais les tubes. Et ça, c'est resté quelque chose qui m'a. Ça a formé un peu mon oreille, en fait, le 330 et le côté single. Et ça a probablement influencé mon envie, justement, d'en faire, d'en avoir. Et le fait d'avoir autant de tubes, aujourd'hui, je me rends compte, quand je fais ces concerts, ces festivals, je peux m'appuyer sur un répertoire qui est solide, en fait. Parce qu'un tube, c'est pas juste un truc qui marche et qui s'en va. C'est que ça dure très longtemps avec les gens. C'est comme une histoire écrite avec les autres. Et je le vois tous les soirs. Et ça saute les générations. Donc c'est pas un petit tube qui a juste été là pendant quelques mois. Ce sont des chansons qui traversent le temps. Et ça, c'est fabuleux, quoi. C'est pour un artiste, c'est un énorme cadeau et un énorme... bagage. Donc voilà, j'avais envie de développer le côté, mon côté français et surtout pas du tout me rapprocher du rock. Et à l'époque, je commençais à écouter des choses un peu en français, les textes de Jacques Duval pour Lio, qui était vraiment brillant, et Taxi Girl, Élie et Jacques No. Donc il y avait quelques trucs en français que je trouvais vraiment cool. Et je me suis dit que c'était ça qu'il fallait que je développe. Et donc tout le reste. J'ai tout fait pour m'en empêcher. Enfin, pour m'empêcher d'être trop influencé par ça.
On marque une pause musicale tout de suite avec Comme un boomerang, la version originelle de Serge Gainsbourg.
Je sens le bruit des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté, de ma mémoire calabringue, ton amour m'a épuisé. Pas monter. je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens le boom et les mangues agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. T'aimer comme une dingue peut toi me damner. Toi qui fais partie du gang, de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures cinglées que tu m'as fait endurer. Je sens le boom et le bang, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire de bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer. Sous les coups de boomerang, des flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues d'un corps que je m'avais donné.
Je vais l'écouter parce que...
Voilà. Pour un oui.
Bonjour, c'est Étienne Daoud dans Pour un oui, pour un son.
Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint.
Des dépôts de carburant, des postes de gendarmerie attaqués. Au total, plus de 30 attentats frappent l'Algérie en ce 1er novembre 54. C'est la Toussaint Rouge. Bilan, 7 morts et une première victime civile, un instituteur de 24 ans. À l'époque, on ne parle pas encore de guerre, mais d'événements. Pour le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, dépêché sur place, il s'agit de punir les hors-la-loi.
Nous éviterons tout ce qui pourrait apparaître comme une sorte d'état de guerre. Nous ne voulons pas. Mais nous châtirons d'une manière implacable.
Aucune mention n'est faite alors du FLN, qui vient pourtant de signer là son acte fondateur. La guerre aura duré près de 8 ans et causé la mort de 300 000 Algériens et 35 000 militaires français.
Pour un oui, pour un son.
On a évoqué la guerre d'Algérie, vous avez passé votre enfance en Algérie.
Oui.
Vous aviez conscience des événements politiques à l'époque, de ce qui se passait là-bas?
Je crois que quand on est enfant, on ne se rend pas compte, on est dans son monde d'enfant. Et évidemment, j'enjambais quelques cadavres avant de rentrer chez moi. Non, il y avait enfin, je dis ça en riant, mais c'est vrai, c'était comme ça. Et puis, il y avait des choses très compliquées avec mes parents qui n'étaient pas là. Donc, j'étais en pension dès l'âge de 4 ans. Et c'était un peu difficile. L'expérience d'être arraché de ses parents, de ne pas savoir ce qui se passait, de sentir que c'était un pays en guerre. Quand on monte dans une voiture, il fallait s'allonger, pas se prendre une balle ou passer sous les fenêtres, tout ça. Donc oui, c'est des choses que j'ai bien connues et qui sont intégrées dans mon parcours. Enfin, j'en parle comme ça avec détachement parce que c'est comme ça que je le ressens. C'est pas quelque chose qui m'apparaît comme étant grave. Je pense que ça m'a structuré en fait. Enfin, chaque élément et événement qui se passe dans votre histoire vous structure, vous construit, fait de vous la personne que vous êtes. Et donc voilà, ça en fait partie. Donc j'ai vraiment les deux aspects très légers, très graves.
Et vous vous promenez entre les deux? Vous avez trouvé le juste milieu?
Non.
Vous vous promenez entre les deux?
Oui.
Votre père s'appelait Étienne, il était militaire de carrière, musicien aussi, joue de la trompette.
Il n'était pas militaire de carrière en fait, il était rentier.
C'est pas la même chose.
Il s'est retrouvé à la tête d'une fortune énorme quand ses parents sont morts, quand il avait 20 ans. Et c'était un beau garçon qui était un hédoniste, qui aimait faire la fête. Et donc, il en a beaucoup profité. Et donc, évidemment, c'était ni un père, ni un... C'était pas quelqu'un de très sérieux. Donc, un côté très sympathique et puis très compliqué pour ma mère, forcément.
Et il faisait de la musique ?
Il jouait de la trompette.
Il jouait quoi ?
Il adorait le jazz, en fait. C'était un gros fan de jazz.
Il
c'est drôle parce
ça,
qu'en fait, j'ai très très peu d'éléments, de choses sur lui. Et récemment, je me suis retrouvé dans un restaurant à Paris, à la Closerie des Lilas. Et il y a un monsieur qui vient vers moi, qui me dit « Bonjour, vous êtes Étienne Daho ?» Alors je dis « Oui, jusqu'à aujourd'hui, oui. » Et il me dit « Vous savez, j'ai très bien connu votre papa. » Alors je dis « Ah bon ?» C'est comme s'il me parlait de, je sais pas, quelqu'un qui était sur Mars un peu. Et je dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui, je faisais de la musique avec lui, je jouais de la trompette. » Et on a bu un verre et il m'a parlé de mon père, en fait. Et c'était étonnant d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui arrive de nulle part et qui me raconte une partie de l'existence de mon père que je ne connaissais pas trop.
Et quand vous le racontez, vous avez des points communs avec lui ?
J'en ai peur.
Côté hédoniste et musique,
oui,
pour en rester là,
vraiment. Oui, oui, je crois vraiment qu'il y a beaucoup de points communs. Ouais. Beaucoup.
On va écouter Les Innocents avec L'œuf qui peut. C'est un extrait de leur nouvel album Mandarine. Et on se retrouve juste après pour discuter avec Étienne Daho.
Ouh, l'œuf qui peut. Faire t'aimer autant que peut.
fait, chaque élément et événement qui se passe dans votre histoire, vos structures, vous construit, fait de vous la personne que vous êtes. Et donc voilà, ça en fait partie. Donc j'ai vraiment les deux aspects très légers, très graves.
Et vous vous promenez entre les deux ? Vous avez trouvé le juste milieu ?
Non.
Vous vous promenez entre les deux ?
Oui.
Pour un son.
Bonjour, c'est Étienne Daou dans Pour un oui, pour un son.
Étienne Daou, vous arrivez en France à 8 ans ? C'est à peu près ça ?
Oui, c'était pour la rentrée scolaire en 64.
Reims, 7 ans. Puis Paris.
Oui.
Et là, c'est vraiment le changement d'univers,
oui.
De comportement, de climat.
Oui.
Et vous êtes plutôt un bon élève ?
Non, à la base, non, parce qu'en fait... en Algérie, j'allais quasiment pas à l'école. Enfin, c'était à l'école en diagonale. Je me souviens que, comme c'était très compliqué à Oran, c'était très dangereux. Après la pension, j'ai été élevé chez mes grands-parents qui avaient une espèce d'établissement de plage où on vendait des glaces, des sodas et tout ça, dans lequel il y avait ce fameux jukebox. Et donc, il y avait une école. On était trois. Il y avait un garçon qui avait devoir 11 ans et un autre qui devait en avoir 17. Donc, pour le programme scolaire, c'était un peu en diagonale, on va dire.
Mais vous étiez quand même le troisième de la classe, ce qui était.
Non,
ce
non,
qui
là,
bon, normalement.
Là, il n'y avait pas de classement. C'était vraiment parce qu'il fallait, il fallait être un peu scolarisé. Non, quand je suis arrivé en France, c'était très compliqué parce que j'ai dû rattraper tout mon retard, en fait. Et quand on est un petit étranger, un petit immigré, il y a deux solutions. Soit on se fait vraiment massacrer par les autres, parce que mes parents sont pas là, parce que je suis étranger, j'arrive d'ailleurs, et que les gamins sont un peu sadiques avec tout ça. La seule façon de me faire respecter, c'était d'aller vers les plus hautes places. C'était la seule manière, en fait, de me faire respecter vraiment.
Ça a été
et
ça,
j'y suis parvenu,
choix.
Donc je me suis vraiment défoncé pour y parvenir.
Pour être tranquille.
Pour être tranquille.
Respecté.
Exactement.
Et puis vous découvrez l'Angleterre.
Ça a marché.
Ouais. Vous découvrez l'Angleterre ado. Et un de vos premiers jobs, c'est dans un hôtel de Manchester.
Oui, c'est vrai, oui. Par l'intermédiaire d'une personne de ma famille, j'avais trouvé un job là-bas. Et là, ça a été
la découverte.
Ouverture vers le monde, tout. Tout. La drogue, le sexe, les concerts, la
en
liberté.
Même temps.
Tout en même temps, oui.
Vous aviez un dealer, vous avez raconté un jour, qui était en costard-cravate et qui vous utilisait comme cobaye.
Ah mais ça c'est plus tard.
C'est un peu plus
ça,
tard.
C'est plus
c'est
tard.
À Londres d'ailleurs.
Ça c'est à Londres, ouais. Quand j'étais à Manchester, je travaillais dans un hôtel, donc je portais les valises dans les chambres et tout ça. Donc j'ai appris très tôt aussi la psychologie des gens, parce que souvent quand vous avez des femmes et des hommes seuls qui viennent en voyage et qui dorment dans les hôtels, la seule chose qui les intéresse c'est de vous serrer, quoi. Donc il commence par demander les bagages, et puis après un sandwich, et puis après c'est l'escalade. Donc j'avais compris comment me sortir d'affaires. Ça m'a fait grandir. Et l'histoire du dealer, c'était plus tard. J'avais rencontré quelqu'un entre Saint-Malo et Portsmouth sur le bateau. Et je partais à Londres, et Et j'étais parti à l'époque avec pas d'argent. Enfin, je me disais, c'était l'époque où on disait on part et on verra. Donc je partais à Londres et je me disais on verra. Pas de point de chute forcément. Donc quand j'ai rencontré ce garçon, c'était une aubaine. Il m'a dit voilà, je vais dormir chez quelqu'un que je connais. Où est-ce que tu vas? Je dis bah, je sais pas. On verra. Il me dit bah, si tu veux, tu peux venir. Donc je suis arrivé dans cette maison. Il y avait plein d'autres gens d'ailleurs. Moi, j'avais trouvé un endroit sous un escalier où je m'étais fait un endroit pour dormir. Et c'était un dealer de très haut niveau. Donc
respecté, reconnu.
On testait des trucs, on testait des choses. Donc il nous faisait tester. C'était n'importe quoi. On aurait pu partir en.
Oui, on rigole, mais ça aurait pu mal tourner.
Oui, parce qu'il y avait beaucoup de produits très très durs à l'époque. Je me souviens justement qu'à Manchester, dans un verre de coca, on m'avait mis ce qui s'appelait à l'époque une pyramide noire, ce qui était un acide très très puissant. J'ai fait le tour de Manchester en 3 jours, parce que ça ne s'arrêtait que quand je marchais, en fait. Et dès que je me couchais, je partais dans des espèces d'hallucinations atroces. Et donc, évidemment, quand on... J'avais vu suffisamment de choses assez difficiles dans mon enfance pour que des choses très dures remontent à la surface. Donc j'avais vraiment que des tripes... assez dur en fait, assez angoissant.
Et ça vous a calmé sur la drogue ou
pas plus? Oui, parce que d'abord après j'avais pas les moyens, donc j'ai commencé par des drogues très dures que je trouvais très bonnes et très agréables à prendre et que je trouvais que c'était bien. Puis de toute façon c'était un mode de vie, la drogue, comme le sexe, c'était comme ça, voilà. Nos idoles c'était Lou Reed, voilà, et que des gens qui prenaient vraiment.
C'était l'époque surtout.
C'était un mode de vie. Si on n'était pas comme ça, on n'était pas cool, on n'avait pas d'amis.
Donc vous aviez beaucoup, beaucoup d'amis.
J'avais beaucoup d'amis, oui.
En tout cas, vous faites partie des artistes à avoir enregistré beaucoup, beaucoup de duos, en majorité avec des femmes. On va se balader un peu dans cette discographie de duos.
Et si je m'en vais avant toi, dis-toi, bien que je serai là, j'épouserai la pluie, le vent. Les dessous chic, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est à bout, c'est à bout.
Les dessous chic, c'est une charte élue qui claque dans la tête comme une porte claque.
Ça cogne à l'endroit, puis à l'envers.
À présent, un moment d'intensité et d'amitié, une reprise de Hank Williams. Avec Monsieur Alain Machoun.
Et du sushi, ce serait comme un talon
qui transpercerait le cœur des filles.
I can't escape from you. I can't escape from you. I can't escape from you.
Certains l'aiment tard,
certains l'aiment chaud,
d'autres tartare.
Le plaisir n'a pas de mesure.
Tous les goûts sont dans ma nature.
Tous les goûts sont dans la nature.
Ça cogne à l'endroit, puis à l'envers, ces rixes sont familières. Et que faire, se réchauffer aux êtres chers, ou aux amitiés passagères, lorsque le fruit est trop amer. Je préfère
croquer ma pomme, je suis la femme, croquez-moi donc.
Allez, danse, nous plaisons. Ce soir, l'amour est tranche. Ça cogne à l'endroit, puis à l'envers.
Oui, ça fait du monde, hein. Et puis il y en a encore d'autres, il y a Marianne Faithfull.
Aimer, être aimé, quel bonheur. Et pourtant, comme tout cet éclat éterne, auprès de la félicité remplie de tourments, que l'on éprouve en adorant une femme qui fait de l'homme son jouet, en devenant l'esclave d'une créature tyrannique qui vous piétine impitoyablement.
Audace, indécence exigée, blocus à toi qui souhaite s'immiscer. Ce nightclub où le jazz a prisé, réticence pour qui souhaite s'y glisser.
For the exile of the radiant children to me. Il
y a des billaries.
For all those who like you are rebels. Rebels. The clandestine.
Se retourner, ce plaisir ne m'allégeait pas.
la beauté n'avait pas de bras. Je rêvais d'une vie de plumes, ignorais la stèle et l'enclume. Je balayais mes propres traces.
Que de temps perdu en surface.
Que de temps passé en surface. Que de temps à ne pas succomber
aux spleen et aux étoiles implombées. Que de temps passé en surface.
L'éphémère était mon credo. Et hier, à la mauvaise place, je n'aimais pas trop mon cerveau.
Mon corps envahissait l'espace. Puis j'ai vu bouger la surface. Tout le temps venant à déborder. Je pensais n'y pas y penser.
Oui, mais nos pensées nous dépassent. Et j'ai glissé sous la surface,
délesté de la légèreté.
J'ai compté les étoiles tombées
et claqué le temps perdu en surface.
Que de temps passé en surface. Que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles tombées. Que de temps passé en surface.
Il y a Dany aussi.
Dany, oui.
Je sens des baumes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. Je sens des j'étais mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer le larme dingue d'un corps que je t'avais donné.
François-Marie de François Andy Atlas Mountains.
Que vais-je faire d'une vie entre les gouttes de pluie?
Attendre, rester calme. Que l'onde soit finie.
De bons amis dans le temps perdent leurs traces et s'oublient.
Mais quand revient la nuit,
en rêve, en souvenir, sont réunis.
Unlike the night sky, I can't find the way to join myself together. Join the stars in me into signs. Constellations and wonders being raised.
Qu'est-ce que vous aimez tant dans les duos? C'est aussi la rencontre hors...
Ah, c'est la rencontre, vu que je crois que c'est les rencontres se font, et puis c'est comme une conversation avec quelqu'un qu'on aime bien. Il y a, je sais pas, c'est quelque chose qui se produit comme ça, des affinités, puis voilà, la meilleure façon pour deux artistes de communiquer, c'est de faire de la musique ensemble. Je crois, c'est la chose la plus intime.
On vient vous voir, vous allez...
Oui.
Demander, les deux sont possibles.
En général, j'aime pas demander.
Donc la plupart du temps...
Parce que je veux pas me prendre une veste. Mais je demande jamais. Mais si, j'ai demandé à Jeanne Moreau quand on a fait Le Condamné à mort.
Et pas de veste.
Elle m'a dit oui tout de suite.
Et puis elle a dit oui, pas seulement pour une chanson.
Oui, c'est tout un album. On est parti en tournée ensemble. C'était une belle aventure. C'est vraiment l'aventure qui fait grandir, quoi. Mais j'ai vraiment eu la chance d'abord de travailler avec beaucoup de gens que j'admirais quand j'étais adolescent. Les Dutronc, par exemple, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Birkin.
Faithful, on imagine.
Oui, bien sûr, Faithful.
Forcément.
Many a mile to freedom, voici Marianne Faithful.
Mmh.
Together we melt like the snow.
C'était pour un oui, pour un son. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième et dernière partie de cet entretien avec Étienne Dao.